Tech & Co, la quotidienne, décryptage.
Et oui, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce fameux Pavel Durov, le CEO et le fondateur de Telegram. Et on va en parler avec deux spécialistes de ce domaine. Tang Loaek est avec nous. Bonsoir Tang.
Bonsoir François.
Vous êtes entrepreneur et romancier, auteur des Enfants Maigres, c'est aux éditions Passiflore. Et Jean Pelletier de Chambure est avec nous aussi. Mon cher Jean, quel plaisir de te retrouver.
Bonsoir François, mais oui, plaisir partagé.
Ça fait plusieurs mois que tu avais déserté le studio de Tech & Co. Voilà, Jean qui, depuis plus de 20 ans maintenant, intervient dans beaucoup de mes émissions. Je suis très heureux de te retrouver. Tu es responsable du think tank Bureau des Éveilleurs. Et tu m'as envoyé un message en me disant, voilà, il faut parler de Telegram parce qu'il y a plein de trucs à raconter concernant Axel Durov et son arrestation. Donc, garde à vue jusqu'à demain. C'est étonnant ce qu'on est en train de vivre, non ?
Oui, c'est étonnant parce que c'est quand même une figure des grandes messageries sécurisées dans le monde. On parle quand même de 900 millions d'utilisateurs, donc c'est énorme. On a eu il y a quelques mois l'arrestation d'un responsable aussi d'un site de messagerie qui s'appelait Coco, mais là qui était quand même très vite identifié comme...
Oui, alors là c'était vraiment les bas-fonds du web.
Bas-fonds des bas-fonds.
Terrible. Voilà. Coco...
Mais là, on ne joue pas dans la même cour, parce que bien sûr, on va reparler très certainement de toutes les accusations graves qui sont portées à son encontre, et oui. Très probablement justifiées, hein, que ce soit sur les différents sujets de non-coopération en matière de données sur les cybercriminalités qui auraient lieu sur cette plateforme, ou qui ont été identifiées comme ayant lieu sur cette plateforme. Mais c'est aussi quand même une plateforme, 900 millions, qui touche beaucoup de résistants à des régimes autoritaires, qu'ils soient situés en Iran, qu'il soit situé en Russie avec Vladimir Poutine. Donc c'est beaucoup plus ambivalent que juste un seul aspect dont on parle beaucoup aussi aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faudrait, je trouve, explorer, expliquer. Et je t'avais proposé que nous fassions ça
en... Le Tang vient sur le plateau.
Voilà. Ouais. Parce que Tang Loaek, en plus d'être un romancier que je vous recommande, parce qu'il écrit notamment sur un très beau sujet avec son dernier livre sur les enfants volés en Chine, mais il travaille notamment dans les usines qui fabriquent et qui assemblent des produits technologiques. Mais aussi, il a une vision Chine et Russie. Donc c'est tout ça qui faisait que pour un site éminemment non occidental, hein, quand même Telegram, il faut bien savoir que ces 900 millions, c'est surtout dans les pays de l'ex-Union soviétique, voire en Iran, c'était très intéressant qu'on puisse échanger comme ça, avec d'autres regards.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une messagerie qui est réputée inviolable et qui, dont le secret en fait, des conversations, Tanguin, c'est ça un peu la particularité de Telegram, est respectée, c'est-à-dire que même quand il y a des injonctions, et c'est ce qu'on reproche, en fait, en ce moment, à Pavel Durov, et c'est pour ça qu'il est en garde à vue, c'est que quand il a même des injonctions de police, de juges, etc., bah, il ne donne aucune information. C'est peut-être ça le nœud du problème, non ?
Alors c'est forcément le nœud du problème. Et effectivement, c'est important de préciser les accusations dont il fait l'objet. Il n'est pas accusé de pédocriminalité, pas accusé de trafic de drogue. Il est accusé simplement de défendre la raison d'être de sa plateforme, qui est de pouvoir protéger la confidentialité des discussions de ses utilisateurs. Ce qui est exactement ce que tous les utilisateurs attendent de toutes les plateformes de messagerie qui existent. Enfin, les gens sont allés sur WhatsApp parce qu'on leur parlait d'un cryptage des communications qui permettait de le protéger. La confiance a été un peu perdue après le rachat par Meta, parce que Meta, notoirement, commercialise les données de ses utilisateurs. Mais c'est bien, exactement ce que vous dites, cette volonté de protéger les données. Alors, quand comme tout le monde, j'ai découvert le sujet dans les journaux. On a parlé de protection de la pédocriminalité. Comme le disait très gentiment Jean, mon dernier livre porte sur la protection des enfants, notamment des enfants kidnappés en Chine. C'est un sujet qui me tient profondément à cœur.
Je vous coupe une seule seconde. Telegram est puissant en Chine ou pas ? Ou c'est, bon, WeChat, on sait, écrase tout sur son passage. Mais il y a des utilisateurs de Telegram. Ça ne marche pas, Telegram, en Chine, non ? Si ?
Alors, Telegram est beaucoup plus présent à Hong Kong, par exemple,
oui,
où ça a une véritable importance. Et effectivement, c'est utilisé par tous les Hongkongais qui étaient de tendance plus démocrates anti-emprise chinoise pour organiser des manifestations.
D'accord.
Donc ça, c'est une réalité également. Elle est moins, c'est moins prégnant en Chine même. C'est moins prégnant en Chine même pour deux types de raisons. La première, c'est effectivement la puissance de WeChat. Mais on a en Chine l'opposé de WeChat, comme on l'a sur d'autres modèles. Pardon, l'opposé de Telegram, c'est-à-dire des modèles où les messageries, les médias sociaux ont très clairement l'obligation de pouvoir répondre aux injections de la police, du gouvernement, pour pouvoir donner, partager les données et faire le tri de ce qui passe ou pas. Donc en ce sens, Telegram est l'anti-modèle chinois, mais il était également l'anti-modèle russe au moment de sa création, puisque on l'a déjà dit, je pense, hier dans votre émission. Mmh. La première chose qu'avait créé Pavel Durov, c'est VKontakte.
Donc VKontakte, oui, c'est le Facebook russe.
Et il a été poussé à sortir de VKontakte et à céder ce contrôle parce que il défendait la confidentialité de ses utilisateurs. Il y avait les utilisateurs en Ukraine, donc ceux qui étaient sur la place de Maïdan, et donc protection de ça, protection d'autres mouvements démocratiques en Biélorussie également, et c'est pour ça qu'on l'a poussé. Donc je pense qu'à cette époque, d'ailleurs, tout le monde pensait beaucoup de bien du fait qu'il résistait aux injonctions des gouvernements ou des autorités de police locale pour ne pas partager ses données. Et on se retrouve là, ouais, dans la dimension opposée.
Mais ça se retourne contre lui, finalement, tout ça, parce que effectivement protéger les données des utilisateurs, c'est formidable, mais c'est aussi protéger le pire.
Le pire. Ouais, oui.
Le terrorisme, la pédopornographie.
Oui. Non, mais c'est ce qu'il y a, le plus horrible.
On est d'accord.
Et en même temps, effectivement, entreprise dite à mission où je protège toutes les données, etc., ça devient presque un parti politique et une entreprise, ou en tout cas une dimension idéologique d'une certaine forme d'adhésion totale et sans aucune condition à la liberté d'expression. Et finalement, quelqu'un comme Pavel Durov, s'il suscite autant de réactions dans le monde, hein, que ce soit aux États-Unis, on l'a vu évidemment avec Edward Snowden ou avec Elon Musk, mais pas que, aussi en Russie, y compris, maintenant on le voit, comme par hasard, là je sais pas si tu as vu ça, mais il y a Mark Zuckerberg qui dit « Ah, mais moi j'aurais dû finalement, au moment du Covid, ne pas suivre toutes les injonctions qui m'avaient été demandées par Joe Biden ». C'est bizarre qu'il sorte ça à ce moment-là, c'est très certainement un peu calculé. Le président de la République iranienne dit « Attention, il faudrait quand même bien contrôler tous les réseaux sociaux », il en reparle maintenant, comme par hasard, alors qu'on sait que Telegram est aussi très présent là-bas. En France, finalement, je dirais, en dehors de la sphère des passionnés de la tech, des journalistes, etc., on en parle très peu, pour une raison très simple, c'est qu'il y a, je crois, à peine 1 million d'utilisateurs en France. Il y a un cas intéressant qui remonte à quelques années.
C'est WhatsApp qui crasse tout sur son passage.
Voilà. Et en 2016, alors on remonte un peu dans le temps, mais c'était intéressant, c'est la première fois qu'il y a eu une arrestation au Brésil du vice-président de Meta par une juge d'instruction brésilienne. Ça a duré 24 heures. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Facebook a dit, écoutez, c'est très très brutal, vous nous demandez des données qu'on ne peut pas vous donner, précisément, parce que ce monsieur appartient à Facebook, n'appartient pas à WhatsApp, on a racheté WhatsApp entre-temps, c'est des faits antérieurs. Et surtout, il y a une pression publique énorme, puisqu'il y avait 100 millions d'utilisateurs, disons, de WhatsApp, qui faisaient déjà du e-commerce, donc c'est pas du tout les mêmes ratios. Finalement, pour nous, ça paraît assez lointain, mais c'est, d'un point de vue mondial, des territoires d'expression publique extrêmement importants.
Merci beaucoup à tous les deux. Le temps passe très très vite. Il faudra que vous reveniez, évidemment, peut-être trouver un épilogue à cette histoire. On va bien voir ce qui va se passer demain. Demain, on arrive à la fin de la garde à vue. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, on suivra cette histoire, évidemment, demain soir dans Tech & Co. Mais vous pourrez peut-être revenir après pour analyser tout ça quand tout se sera décanté. Merci à tous les deux. Merci Tang Loaek, entrepreneur et romancier, auteur donc de ce livre Des enfants maigres aux éditions Passiflore. Et merci à Jean Pelletier de Chambure. Merci Jean, à très bientôt, bien évidemment.